Christopher Thompson, bonjour. Donc vous voilà à Bruxelles pour nous présenter Tendre et saignant, votre deuxième réalisation qui sort le 19 janvier. Gabin, semble-t-il, disait, pour faire un bon film, il faut trois choses. Un, une bonne histoire. Deux, une bonne histoire. Et trois, une bonne histoire. Vous êtes d'accord?
Ah, je suis d'accord avec lui, d'autant plus que je crois que Billy Wilder disait à peu près la même chose. Je me demande si c'est même pas lui qui disait ça. Mais enfin, oui, une bonne histoire, c'est la base de tout. Puis après, il y a quand même d'autres ingrédients qui sont très importants et dont on peut parler aussi, notamment de bons acteurs.
Alors, ce précepte, quand même, je crois que vous l'avez dans les gènes, quand même, non? Grand-père, maman, tout le monde chez vous est dopé.
Mon grand-père était cinéaste, ma mère l'est aussi. Ils sont tous les deux venus au cinéma du scénario, même si mon grand-père était acteur avant d'écrire des scénarios et de d'écrire ses propres films. Donc oui, il y a certainement une culture du scénario et en tout cas une culture d'aller vraiment peaufiner de ce qui est écrit, d'aller au bout des couches d'écriture qui sont vraiment les fondements, les fondations des personnages, de l'histoire et qui, à mon sens, permettent d'avoir encore plus de liberté une fois qu'on est dans les autres phases de création du film.
Alors, quel fut le point de départ du scénario? Parce que la cuisine, bon, on ne peut pas dire que c'est nouveau, c'est pas une mode, puisqu'on est à des Top Chef, c'est la 12e saison. Donc, est-ce que vous avez fait, une petite analyse de l'engouement du public
Alors, en réalité, l'histoire se passe pas dans une cuisine, mais dans une boucherie. Et c'est peut-être ça, un petit peu l'originalité. En tout cas, on s'est intéressé. Je me suis dit qu'il y avait effectivement beaucoup de choses sur la cuisine, sur les grands chefs, sur les cuisiniers. C'est quelque chose qui est évidemment très à la mode. Mais, notamment et la recherche du bon produit, mais sur ce qu'ils font, et notamment sur ce métier de boucher, qui est aussi sous le feu de la rampe aujourd'hui, parce que la boucherie est au centre de plein de problématiques qui sont absolument légitimes et réelles sur le bien-être animal, sur l'écologie. Donc, les boucheries sont pas forcément à la mode, mais en réalité, on est en France, en Belgique, je pense que c'est pareil, à peu près 98% d'entre nous allons de temps en temps chez notre boucher. Et je me suis dit que c'était une sorte de scène. Je me suis rendu compte que c'était d'abord le cœur battant souvent d'un quartier, que les gens se retrouvaient dans une boucherie, qu'il y avait beaucoup de passages, beaucoup de brassages, que souvent on mettait sa petite annonce, et puis qu'il y a le matin le rideau de fer qui se lève, le boucher est là, et une sorte de petit spectacle qui commence et d'échanges très quotidiens avec la clientèle.
J'aurais pu le faire avec un bar tabac.
J'aurais pu le faire avec un bar tabac, parce que le café, c'est un peu pareil, mais il y a quelque chose dans ce métier de boucher que j'ai exploré, qui m'intéresse. Il y a plein d'aspects. D'abord, c'est un commerçant qui est un passeur entre le monde du vivant et nos assiettes. Et ça, ça fait qu'il a une vraie responsabilité. Et c'est pour ça, je pense qu'il y a beaucoup de dialogue avec le boucher, qu'il y a beaucoup de conseils. Ah bah ça vient d'où? Qu'est-ce que c'est que ce produit? Comment on le cuisine? Donc il y a vraiment un échange et ça m'a beaucoup intéressé. Et puis c'est un métier où il y a souvent de la transmission de père, alors souvent de père en fils. Et là, en l'occurrence, dans mon film, c'est de père en fille. Ça fait partie du sujet. Et puis, il y a une autre raison. Et je ne sais pas si ma réponse est trop longue, mais en tout cas, il y a une autre raison qui j'ai voulu. J'ai choisi un métier qui est traditionnellement un métier d'homme, un métier masculin, et mettre un personnage fort dans un monde d'hommes et qui se prend des coups et qui se débrouille dans un monde d'hommes.
Ça bascule d'ailleurs au milieu du film.
Absolument.
Vous avez coécrit avec Fabrice Roger Lacan, qui en fait a déjà écrit des scénarios pour certains de vos comédiens, comme Géraldine, notamment dans La Folie Douce, pour Jean-François Sévenin dans Les Frères Sœurs, Stéphane de Gros dans L'un dans l'autre. Est-ce que ça aide au niveau de l'écriture ?
Oh, alors non, la réponse est non, parce qu'en réalité, disons que ça ne rentre pas en ligne de compte, parce que dans tout ce long processus, ce long temps d'écriture de scénario, on ne se dit pas forcément ce personnage, ça va être Stéphane Degros, ou ce personnage, ça va être Jean-François Stévenin ou Géraldine Pellas. On écrit, on développe des personnages, on passe par beaucoup, par toutes les couleurs de l'arc-en-ciel souvent. On peut se projeter dans des interprètes, vivants ou morts, dans des références. Et puis c'est vraiment au bout du parcours qu'on trouve le bon interprète pour le personnage. Parce que le personnage, on l'écrit et il est vivant jusqu'à ce qu'on... Enfin, il est en évolution, on va dire, jusqu'à ce qu'on trouve l'interprète idéal. Et puis après, il continue d'évoluer, mais avec la personne qui lui donne vie.
Finalement, dans votre écriture, la boucherie de Jacques Fleury n'existait pas. Vous l'avez créée dans le Marais. Vous auriez pu très bien le faire en studio, non ? Ou vous avez peut-être à ce moment-là davantage de possibilités de mouvement de caméra ?
Alors, vous posez une question qui est liée à vraiment un des problèmes techniques majeurs de la fabrication du film. C'est-à-dire que dans ce film, un des personnages du film, c'est ce commerce, cette boucherie artisanale qui évolue tout au long du film et qui est un personnage à part entière. Et moi, j'aime bien le comparer au magasin de Bonheur des Dames de Zola, qui était presque un être vivant, qui est en mouvement, qui bombille, qui grossit, qui grandit. Bon, cette boucherie, c'est pas exactement ça, mais il y a la boucherie paternelle au début, qui est une boucherie, traditionnelle. Que Charlie reçoit en héritage, et toute la problématique du film, c'est qu'est-ce qu'elle va en faire, qu'est-ce qu'elle va faire de ce cadeau ou de ce boulet qu'on lui laisse. C'est les héritages ou les transmissions familiales, c'est souvent ça, c'est à la fois des cadeaux et souvent des boulets aussi. Qu'est-ce qu'elle va en faire? Et en fait, cette boucherie, elle va se transformer, elle va être détruite et reconstruite. Et donc il fallait que je construise ma propre boucherie. Il fallait que ce soit un décor. Et c'était très compliqué et très excitant, parce qu'on a donc trouvé un local. Bon, il se trouve à Paris, parce qu'il me fallait que ce soit pignon sur rue, parce que c'était l'aspect commerce de proximité très important.
La rue est importante.
Rue était importante. Donc non, je ne voulais pas l'en construire en studio. D'abord, j'en avais pas les moyens et je voulais pas le faire. Mais j'ai trouvé un local et on a construit notre propre boucherie. Et on a pu un petit peu organiser notre circulation telle qu'on la voulait. Alors autour des spécificités de ce local, mais on a pu un petit peu construire la boucherie comme on la voulait. Et puis surtout garder les traces de la boucherie paternelle, de la boucherie traditionnelle, dans la boucherie qui se renouvelle. Et le film parle beaucoup de ça, de traces, de transmission, de ce qu'on garde du passé, et puis surtout de comment on le transforme et comment on le réinvente.
Ce qui est quand même admirable chez vous, c'est cette fluidité, et notamment dans les mouvements de caméra. Enfin, je veux dire, c'est ce qui manque souvent dans le cinéma français, c'est le rythme. Et je ne sais pas... D'où vous sortez ça, mais enfin, en tout cas, c'est quand même très agréable à voir, et chapeau.
Ah ben je vous remercie, merci beaucoup pour à la fois le compliment et puis aussi d'avoir de remarquer ça dans le film. Je pense que c'est ce que je voulais pour ce film particulièrement. Et notamment à l'intérieur de la boucherie, comme c'est un petit décor, je voulais que ça soit effectivement assez virevoltant, qu'il y ait une sorte de balai entre les clients, les bouchers qui bougent, les échanges, les retours dans l'arrière-boutique. Et c'est vrai que c'était c'est une volonté, et on a beaucoup travaillé ça avec le chef opérateur Rémi Chauvrin.
Et surtout, je crois qu'au niveau montage, ça doit quand même être assez énorme, non ?
Bah, le montage, c'est vraiment la troisième, la troisième écriture du film. Hein. On a le scénario, on a le tournage, et puis le montage. Et le montage, évidemment, on travaille avec le matériel qu'on a tourné. Hein. Donc, il ne faut pas trop se planter. Il faut qu'on ait le matériel pour à monter. Mais le montage, on peut faire beaucoup. Et ce que vous dites par rapport au rythme, c'est quelque chose qui est essentiel, et notamment en comédie. Mais d'ailleurs, même dans n'importe quel genre, le rythme, c'est le rythme intérieur, c'est le rythme des acteurs eux-mêmes, c'est le rythme à l'intérieur d'un plan, et ou le rythme d'un mouvement de caméra, ou le rythme du montage et de d'enlever quelques images de plus, d'enlever quelques images ou d'en rajouter quelques-unes. Tout ça, c'est effectivement comme un battement de cœur, le battement de la vie, et ça fait partie de la vie du film, de la rythmique du film. Et c'est vrai que j'y suis très sensible, c'est très important pour moi.
Alors ici, on a vraiment l'impression, il nous manque le goût. On aurait dû faire un film en odorama, non ? Parce que c'est, vous nous donnez tellement l'envie. On a la bouche finalement quand ouais. on.
C'est un petit peu le oui, c'est si c'est le cas, c'est vrai que. C'est vrai que si on sort du film et qu'on se dit, tiens, j'ai envie d'aller me taper la cloche, on a envie de manger un bon, se retrouver autour d'un bon repas, une bonne viande, de qualité, et puis éventuellement, et on a envie de s'aimer un peu mieux et un peu plus. Voilà, c'est un peu le sentiment du film.
Alors, le film est coproduit par, au niveau belge, par Scope Pictures. Alors, vous avez emmené Geneviève Lemal dans les rues Paris et visité les boucheries du Marais, ou alors vous avez été dans vos bons restos partenaires, parce que j'ai vu qu'il y en a quand même quelques-uns qui sont assez impressionnants. Vous êtes au Châteaubriand, vous avez l'Astrance, l'Évasion à table du 53. Elle a visité tout ça avant de se décider.
En fait, tous ces partenaires, c'est moi. C'est à la fois un film de fantasy, c'est totalement de la fiction. C'est pas un conte, mais bon, on est dans la comédie romantique. Donc, mais je voulais aussi qu'il y ait beaucoup de réalisme. Donc. C'est vrai qu'à travers les mille recherches, que ce soit dans la boucherie, la restauration, etc., je suis tombé sur des gens et je voulais qu'il y ait du réalisme. Donc effectivement, on va tourner à Rungis, et quand il y a des cartes de restaurateurs qui s'affichent, moi, j'ai demandé à des restaurateurs, j'ai mélangé des choses inventées avec Pierre Gagnère et le Châteaubriand, qui sont des restaurants à Paris. Donc il y a toujours une part de choses réelles, et y compris d'ailleurs dans les décors, et y compris dans les bouchers eux-mêmes, qui sont les acteurs de cette boucherie, sont des vrais bouchers, parce qu'ils ont les bons gestes et ils savent comment bouger, et ça apporte
réalisme.
Du réalisme, et je pense que ça nous rapproche des personnages.
On parlait de Belgique, mais il y a notre comédien, le fameux Stéphane De Groot.
Ouais.
Est-ce qu'il est docile comme comédien ?
Est-ce qu'il est docile ?
Oui. Bon, l'homme des bons mots qui adore jouer avec les textes.
Ouais, Stéphane, il a eu la fidélité. La gentillesse de venir jouer ce rôle qui n'était pas le rôle principal, qui était un rôle important, qui parce qu'il me fallait un acteur qui c'est un peu le concurrent de mon Martial, de mon amoureux principal, Arnaud Ducret. Et il a eu la gentillesse de venir prêter son élégance et sa séduction, parce qu'il me fallait un personnage élégant et séduisant pour jouer le concurrent. Et on s'est tout de suite accordé. C'est quelqu'un qui aime beaucoup aussi les bonnes choses de la vie, le bon vin, les bons produits, les bons restos. Et oui, il a adhéré à l'histoire et il a adhéré au personnage. Et donc ça a été un partenaire de travail tout à fait formidable et agréable.
un autre partenaire, on vient d'en parler, c'est Jean-François Stévenin, ouais. Grand moment d'émotion, puisque finalement il est décédé quoi, un an et demi après la fin de votre tournage.
Oui, malheureusement j'ai le grand regret de ne pas avoir pu lui montrer le film, parce que tout s'est retardé avec la pandémie, etc. On a pris plus de temps que d'habitude. Mais Jean-François Stévenin, c'est d'abord, j'avais pas le personnage, je trouvais pas l'acteur, et tout à coup j'ai eu l'idée de Jean-François. Je l'ai appelé, je me souviens très bien. J'étais en train de repérer un décor et j'ai trouvé son numéro. Je l'ai appelé, on se connaissait pas. Il m'a dit ah oui, formidable, mais bien sûr. En cinq minutes, il m'a dit oui. Bah j'ai dit, est-ce qu'on peut se voir demain par exemple, et le lendemain on s'est retrouvé à déjeuner. Et il avait lu, et il est venu tout de suite, et il était tellement enthousiaste, et avec une telle expérience de cinéma, un tel amour du cinéma, une telle joie de venir sur un plateau. C'était, voilà, c'était formidable, un exemple, et son humanité, vraiment, puisqu'il joue un personnage qui voilà, qu'on voit au début du film, plane sur tout le film, et il est très important dans le film.
Parce qu'on parle de disparition, mais on parle aussi de renaissance, finalement, dans le film.
Oui, c'est vraiment l'histoire d'une femme, qui n'a pas 20 ans, pas 30 ans, qui a dépassé la quarantaine, qui travaille beaucoup, qui n'a pas eu le temps non plus de construire une famille, et qui va être... un petit peu aspiré vers là où elle a beaucoup travaillé, d'où elle a beaucoup travaillé pour s'échapper. Et parce qu'elle vit, elle est née dans cette boucherie, elle y a grandi, elle n'a pas du tout envie d'y revenir, a priori, et elle va être un petit peu réconciliée avec d'où elle vient, à travers son histoire d'amour, de cette comédie romantique, parce que c'est ça la base du film, avec son histoire d'amour avec Martial Toussaint, qui est joué par Arnaud Ducret. Elle va être reconnectée avec d'où elle vient, et elle va petit à petit réinventer ses racines, se réinventer elle-même et se projeter vers l'avenir.
Mot de la fin, vous êtes bleu, saignant, à point ?
Moi, je suis saignant quand la viande est très bonne. Voilà. Et puis sinon, je ne mange pas.
Merci, Christopher. On rappelle donc Tendre et saignant qui sort le 19 janvier. Merci.
Merci à vous.